Robert Schmitt, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Alors, vous venez d'éditer à compte d'auteur un livre intitulé Sainte Suzanne dévoile le Graal et Avalon. Vous habitez Torcé, viviez en Charny, donc tout près d'ici, tout près de Saint-Guillaume, mais si vous êtes situé en Mayenne. Finalement, vous êtes un auteur assez prolifique puisque vous avez déjà pas mal de livres à votre actif. Vous écrivez sur le Graal et sur cette région de Sainte Suzanne, Évron, dont vous dites qu'elle mérite, eh bien, elle mérite qu'on creuse un petit peu dans l'histoire pour parler notamment de Chrétien de Troyes et le Graal.
Donc Chrétien de Troyes n'est pas le premier écrivain sur le Graal, mais c'est le plus célèbre auteur français. Et la première écrivain français de l'époque était Marie de France, qui avait aussi écouté les légendes locales. Mais tous les deux avaient été précédés par l'abbaye de Glastonbury, Monmouth, qui en 1135 a écrit un premier ouvrage s'approchant de cela. 1135 est aussi l'année où est né Chrétien de Troyes. Et aussi l'année où le roi d'Angleterre est mort d'avoir mangé des lamproies.
Alors, c'est
C'était
vrai,
une année charnière, oui.
quand on parle du Graal, on pense tout de suite, voilà, à la coupe du Christ. Qu'est-ce que ça représente, le Graal?
Eh bien, le Graal, je suis tombé par hasard sur une étude d'un ethnologue sur des Australiens qui vivaient encore comme à l'âge de pierre et qui utilisaient déjà des plantes pour, on va dire, se droguer, pour atteindre des états de pensée supérieurs, pour communier avec ce qu'on appelle Dieu ou les esprits, la nature. Et donc, cette technique est donc employée par l'homme depuis l'origine des temps. Il y a dans mes ouvrages, je fais référence à plusieurs cultes ainsi. Et donc le Graal, les plus connus, on peut dire, c'est à l'époque celtique, c'était des grands chaudrons dans lesquels on préparait des boissons, par exemple de la bière à base de bruyère ou de lierre, qui servaient donc aux gens à atteindre des états de pensée bizarres. Bien sûr, il y a eu des abus horribles même, mais la plupart du temps, c'était une bonne religion. Hein, pour communier ensemble et communier avec la nature.
Est-ce que le Graal a rapport avec l'histoire du Christ?
Alors donc, quand Chrétien de Troyes a écrit son ouvrage, on ne trouve aucune référence au Christ ou à la religion chrétienne. Par contre, il y a beaucoup d'allusions au culte antique, hein, mais que Chrétien de Troyes n'avait pas compris d'ailleurs. De tout début de son œuvre, il dit qu'on lui a donné les données, qu'il a écrit avec ce qu'on lui a donné. D'ailleurs, il n'a jamais terminé le Chevalier à la charrette, et ça a été repris par un autre auteur. Et donc, c'est plus tard, les continuateurs, qui ont tout doucement, en 2 siècles, ils ont christianisé l'histoire du Graal, ils ont ajouté une coupe et le sang du Christ.
Votre livre, en fait, est un roman, mais c'est un roman qui s'appuie sur des recherches sérieuses.
Oui, donc au début du XXe siècle, René Bansard a eu l'intuition que l'histoire du Graal avait été écrite entre Domfront et Lassay-les-Châteaux, donc dans le Nord Mayenne et dans l'Orne. Et il a passé sa vie à cela. Il a étudié le latin, le grec, le haut-allemand. Il a étudié avec des universitaires. Et je suis tombé en 2001 sur un article de Lauribus, justement, qui résumait ses recherches. Ça m'avait bien, bien passionné. À la même époque, d'ailleurs, j'avais trouvé un autre livre qui était imprimé fin 19e siècle et qui relatait que le rubricaire, le fort qui est au-dessus de Gublin, servait à surveiller un village de Gaulois irréductibles. Alors, c'était une source d'inspiration merveilleuse.
Donc Sainte-Suzanne et Évron sont les cités du Graal, vous dites en fait.
Voilà, donc à l'époque de Chrétien de Troyes, la forêt de Brocéliande allait de Vannes jusqu'à Belém-en-Sarthe. Hein, donc la forêt Saint-Guillaume en faisait sûrement partie. Et donc il y avait une route importante qui reliait le Mans en Domfront. Et elle passait, parce qu'il y avait énormément de marais, il y avait très peu de ponts. Et donc ça passait dans les collines, sûrement dans les Couëvrons. D'ailleurs, la voie romaine est balisée, les gens peuvent en suivre une partie. Voie romaine, mais voie antique plutôt. Et Évron était la deuxième lieu de pèlerinage après le Mont Saint-Michel, jusqu'à la guerre de Cent Ans, avec le culte de la fertilité et du Saint-Lait. Et à cette époque-là, donc imaginez par exemple la plaine autour de Sainte-Suzanne, qui était marécageuse. Vous avez le rocher pointu, quand vous veniez du sud ou de l'ouest, et tout en haut, le château. Et donc la tour, le donjon, que Guillaume de Conquérant n'avait jamais pu prendre. En Angleterre, d'ailleurs, les élèves apprennent connaît Sainte-Suzanne, car c'est le seul château que Guillaume le Conquérant n'a pas conquis. Et vous aviez aussi au sommet de ce piton rocheux un mur vitrifié qui faisait à peu près 1,30 m de largeur, vitrifié, qui devait être noir comme du jais. Bon, bien sûr, après le Moyen-Âge, ce mur a été doucement recouvert de murailles, mais ça devait frapper les esprits d'arriver par la plaine marécageuse, de voir ce piton vertical, ce grand donjon, et puis le reste des murailles vitrifiées qui éblouissaient au soleil.
Alors, vous dites dans ce roman, Sainte-Suzanne dévoile le Graal et Avalon, en quoi Sainte-Suzanne correspond au château du Graal et à Kaamelott, et en quoi Évron correspond à Avalon. C'est vrai que c'est une période de l'histoire qui est assez reculée, ancienne. C'est vrai que les gens connaissent mieux l'histoire contemporaine finalement que l'histoire du Moyen Âge ou même antique. Et vos lecteurs, ce sont des gens qui se passionnent déjà pour l'histoire, je dirais que tout le monde, même les jeunes lycéens qui sont ici, peuvent éventuellement lire pour apprendre l'histoire avec un grand H.
Bien sûr, parce que c'était mon but, justement, c'était de ne pas faire d'une étude sèche, ennuyeuse, c'est de faire vivre un petit garçon qui grandit, qui découvre la région, les mines, les carrières, qui découvre l'amour, qui découvre aussi la trahison, la souffrance, qui doit, à l'époque, était obligé de voyager pour apprendre. Hein. On allait servir un maître, on était un disciple.
En fait, ce roman, c'est le résumé des deux derniers volumes de Fursan.
Oui, c'est cela. Donc Fursan, en quelques mots, c'est ce jeune Gaulois qui découvre la région. César vient d'envahir la Gaule dans les années précédant l'an zéro. Et donc il y a eu 1 million de morts, 1 million de réduits en esclavage, la Bretagne entièrement dépeuplée. Jublin, par exemple, a été conquis en -50, mais n'a été romanisé qu'en +50. Et donc ce garçon, il est séparé de sa famille brutalement. Il est envoyé dans des carrières pour apprendre le latin avec des esclaves venus de tous les horizons, parce qu'il a une mission importante à effectuer, mais bien sûr, vous le découvrirez en lisant les lignes. Dans le deuxième tome, ce même Fursan va servir un druide et va apprendre donc la sagesse, il va apprendre d'autres choses. Et dans le troisième tome et quatrième tome, qui sont résumés un peu dans ce dernier roman, il va faire le tour de la Méditerranée pour trouver les sources du Graal et de la chrétienté. C'est des sources historiques qui sont très peu connues, très peu de monde connaît cela. Et dans le quatrième tome, donc c'est 1000 ans plus tard, à partir des années 1135, on découvre comment le Graal a été écrit par plusieurs auteurs d'ailleurs et finalisé par Chrétien de Troyes, qui d'ailleurs n'a pas terminé son roman.
Vous dites justement que cette histoire, en fait, le rapprochement que vous faites entre l'époque moyenâgeuse et cette région qui avait un rôle important dans la Gaule et dans les invasions diverses, notamment romaines, vous dites que finalement on n'en parle pas beaucoup pour vanter les richesses encore patrimoniales de cette région, notamment le château de Sainte-Suzanne. Vous dites que finalement on devrait davantage en parler parce que ça attirerait peut-être davantage de monde.
C'est certain, imaginez simplement Sainte-Suzanne qui a déjà été élue 3e cité préférée des Français, donc qui subit un afflux de touristes qui est très apprécié, il y a Clairbois, où il y a des spectacles historiques, il y a quelques petites fêtes dans Sainte-Suzanne même, mais imaginez qu'on mette en avant justement que c'est Sainte-Suzanne et Évron qui ont servi de modèle à Chrétien de Troyes pour écrire ses romans. Par exemple, dans mon bouquin, il y a un tableau à la fin où on reprend, c'est pas moi qui ai fait l'étude, c'est les études d'universitaires de Jean Sérieux, qui reprennent les noms cités par Chrétien de Troyes et qui donnent les cités actuelles, les villages qui existent. Par exemple, vous avez Nose où il y a eu le tournoi des chevaliers. C'est le village de Nau, qui est juste à côté d'Évron. Vous avez, par exemple, le royaume de Gore, qui prend son nom de Goron, qui est pas loin de Domfront. Le pont de l'épée, justement, René Bansard a trouvé que c'était Fausse Terrière. Hein, il donne les critères pourquoi. La fontaine merveilleuse, Eh bien, c'est la source guérisseuse de Hersouvre. Il ne faut pas oublier que Chrétien de Troyes, en plus des données qu'on lui a imposées d'ajouter à son roman, il a visité la région alentour, il a écouté les histoires et il était au coin du feu tous les soirs à écouter les légendes. Hein. Dans le roman de Chrétien, on parle les arpins de la montagne. Eh bien, c'est Herpin. Noir épine, c'est le hameau de Noir Buisson. Le Vavasor, c'est le seigneur de Pertuachard. Voilà. Le vilain hideux, ben, c'est pareil, il donne les sources, c'est à côté de Saint-Berthevin. Alors, il y a aussi, par exemple, ce que peu de gens savent, la source du nom Lancelot, l'étymologie. Il y a Saint-Frimbaud, qui était un saint très important, à côté de la Selle et Château. Et Saint-Frimbaud était très, très respecté par Aliénor d'Aquitaine. Et bizarrement, donc il a servi de modèle au bloc, le roi d'Angleterre et d'Aliénor qui allait des Pyrénées à l'Écosse. Et en face, il y avait le petit royaume franc. Et à Senlis, il y a le tombeau de Saint-Frimbaud avec les reines qui sont devenues les fleurs de lys. Et c'est là que les rois francs allaient porter allégeance, allaient jurer d'être des bons rois. Donc Saint-Frimbaud était vraiment un personnage très, très, très important à cette époque. Et maintenant, on ne comprend plus très bien ce personnage. Donc, Saint-Frimbaud, son nom vient de la frame. C'est un mot germain, un mot franc, parce que les francs étaient des germains, qui veut dire la lance. Donc, Lancelot, c'est Saint-Frimbaud. Et l'eau, derrière, qui s'écrit L-O-T, mais qui a plusieurs sens. Donc ça, faut lire un petit peu, et je ne vais pas tout vous dire à la radio.
Une question à Robert Schmitt, d'où vous vient cette passion pour cette... déjà, la région, vous y vivez, c'est un peu normal que vous vous intéressiez, mais d'où vous vient cette passion pour l'histoire?
Je peux vous le dire, c'est vers mes 16-17 ans, j'ai découvert une série de livres où on ne montrait pas l'histoire bêtement, comme à l'école à l'époque, parce que je suis ancien, on ne montrait pas bêtement l'histoire avec des lieux et des dates. Simplement, on montrait l'histoire avec les conséquences des actes, des mouvements des peuples, du climat, des guerres, des techniques, et qui s'interpénétraient. Par exemple, moi j'avais été très marqué par le fait que pendant que les musulmans, les turcs envahissaient l'est de l'Europe, vous aviez la peste qui dévastait l'ouest. Et c'est vrai que quand on découvre l'histoire vivante comme cela, c'est important. Vous, maintenant, vous avez des tas de films qui vous résument l'histoire, qui vous montrent un peu la vie avec des décors et des costumes qui sont très crédibles. Mais dans ma jeunesse, on n'avait rien. Le premier film que j'ai vu là-dessus, c'était Jeanne d'Arc, qui maintenant, on rirait de voir les erreurs qu'il y a dans ce film.
On va rappeler que vous êtes distribué dans pas mal de commerces locaux. Notamment les magasins... le magasin U à Évron et Ciel Guillaume, également aux épiceries Viveco de Tourcé-Vivian-Charny et celle de Sainte-Suzanne.
Et Macpresse chez vous aussi.
Macpresse, voilà, chez Ciel Guillaume, et puis à Mayenne également, à Évron, voilà. Donc on peut retrouver ce livre. Combien coûte-t-il?
Oui, vous pouvez aussi me rencontrer samedi dans le hall de Super U, parce que je fais une dédicace de 10h à midi. Donc ce livre-là, il est à 17,50, il y a presque 200 pages.
200 pages, il est très bien documenté. Il y a beaucoup de références qui renvoient en fait à des ouvrages historiques en fait.
Oui, j'ai aussi privilégié de mettre les adresses internet des sites où j'avais retrouvé la même chose que dans les livres très sérieux, justement pour que les gens puissent vérifier par eux-mêmes, rebâtir d'autres hypothèses, parce que c'est vrai que les recherches ne sont jamais, jamais terminées.
Sainte-Suzanne dévoile le Graal et Avalon, c'est aux éditions.
C'est l'édition Atramenta.
Atramenta, et c'est ta compte d'auteur en fait.
Voilà, c'est moi qui finance.
Oui. Vous qui financez. Et donc pour bien un petit retour sur investissement, on va inviter les gens bien sûr à acheter votre livre et à le lire bien sûr. Et comme vous le disiez, vous êtes en dédicace samedi matin au Super U de Sarre-Mines-Sillé.
Voilà, c'est ça. Et puis Macpresse pense aussi faire une dédicace à Sillé plus tard, mais c'est pas fixé, profitez de samedi.
Voilà, entendu. Merci Robert Schmitt d'être passé dans le studio de Fréquence Sillé. Et on vous souhaite une belle continuation et encore de beaux livres à écrire.
Ben c'est moi qui vous remercie pour votre patience et votre écoute. Et puis à se voir un de ces jours. Merci beaucoup.
Merci.